France Inter.
Asexualité, oui. C'est quelqu'un qui n'a pas de sexualité. Mais j'allais dire, tout ça, c'est comme la religion, ça doit rester personnel. Pourquoi en parler de tout ça? On est dans l'ordre de l'intime aussi. Donc la religion, la sexualité, on fait ce qu'on veut, je pense, vraiment.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Zoom Zoom Zen. Une heure chaque après-midi pour mieux comprendre notre époque, en décortiquant les expressions, les phénomènes du moment. Et aujourd'hui, un phénomène qui laisse sans voix notre collègue Manon Mariani, qui a essayé de s'intéresser au sujet, de se dire que oui, ça existait peut-être, mais non. C'est un changement de paradigme trop brutal pour elle. Elle ne peut se résoudre à croire que c'est vraiment un phénomène significatif qui mérite qu'on lui consacre une émission. Oui, vous l'avez deviné, aujourd'hui on va zoomer sur l'asexualité. Certains ont d'abord cru que quelque chose clochait chez eux, qu'en se motivant un peu, ils allaient aussi finir par entrer dans la danse du sexe, mais non. Ce qu'ils ont découvert, c'est qu'ils allaient très bien, simplement, ils ne s'intéressaient pas au sexe. Qui sont ces hommes et ces femmes qui aujourd'hui assument, enfin, au grand jour, avoir pas ou peu de libido? À l'heure où on commence effectivement à en parler plus librement, y compris dans les médias, la sexualité est-elle vraiment devenue une orientation comme une autre, ou bien y a-t-il encore des clichés, des incompréhensions, des quiproquos vis-à-vis des personnes se déclarant asexuelles? C'est ce que nous allons tenter de comprendre cet après-midi en compagnie d'une invitée qui a écrit un livre sur le sujet et se définit elle-même comme asexuelle. Un livre qui a donc, vous l'imaginez, beaucoup chiffonné la Marianoche. Déjà, elle n'a pas pu le lire dans le métro. Il n'était pas question pour sa réputation qu'on la voie bouquiner un livre intitulé « Asexuelle ». Elle l'a donc lu chez elle, dans son lit, sous le portrait dédicacé de François Civil. Comme toutes les trois lignes, elle soupirait en marmonnant
« Enfer !»
Son conjoint, le prévenant CV, lui demandait « Bah dis donc, qu'est-ce que tu lis? Ça n'a pas l'air de t'emballer? Ça fait peur? C'est quoi ?»« Rien, répondait Manon, un bouquin de science-fiction que je dois lire pour le boulot. » Oui, à la page 54, Manon renonçait et posait le bouquin sur sa table de nuit à côté de son coffret Durex. Alors, Manon réussira-t-elle à admettre que Asexuel n'est pas un ouvrage de science-fiction, qu'il y a autour de nous des gens qui n'ont pas de libido et qui le vivent très bien?
Mais quel
enfer! Oui, mais on a compris l'idée, Manon. Zoom Zoom Zen, c'est parti.
Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël sur France Inter. Voilà.
J'ai oublié le coffret du rêve.
Ouais, moi aussi.
Et tout ça est vrai, c'est ça qui est terrible. Bonjour Anna Mangeau.
Non. Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi. Anna, vous êtes l'autrice de ce fameux livre Asexuel, sorti en janvier aux éditions Larousse. Et vous êtes vous-même asexuelle, un sujet dont vous parlez également sur vos réseaux sociaux, TikTok et Instagram. Avec vous, on va essayer de déconstruire les clichés autour de l'asexualité, ce qui, vu les personnes présentes dans ce studio cet après-midi, ne va pas être une mince affaire. Manon Mariani, quant
vous
à lui,
premier,
bonjour.
Bonjour.
Ah bah non, moi, tu vas voir. Que...
Bonjour à tous.
Bonjour tout le monde.
Bonjour Anna.
Merci.
Bonjour.
Merci d'être venu quand même les amis. Anna, si vous trouvez qu'il fait froid pour une fin avril, sachez qu'il existe sur les pentes de Montmartre un refuge, un microclimat où il fait très très chaud. La garçonnière de Quentin Luy.
Mais non, c'est du côté ombre en plus.
C'est dans le secret de cet antre musqué que notre expert du micro-trottoir concocte ces fameux complètement à la rue, bijoux du journalisme interactif français.
C'est vous qui le dites.
Quentin, racontez-nous, la sexualité, est-ce que ça interroge les gens que vous avez croisés?
J'ai arrêté trois générations différentes et les trois portent un regard assez différent sur le thème de l'émission et sur le récit de notre invité. Une vie sans sexe, à quoi bon? Est-ce vraiment notre génération? Est-ce que ça doit rester dans la sphère du privé comme la religion? Vos réponses dans la prochaine demi-heure dans ce micro-trottoir complètement à la rue.
À vos côtés, Anna, un détail ne trompe pas, elle n'a pas apporté son petit carnet journal de bord de Zoom Zoom Zen, dans lequel elle note chaque jour scrupuleusement les choses à retenir de notre émission. Preuve qu'elle n'envisage même pas de retenir quoi que ce soit de cette émission.
Oh,
elle fait un rejet de principe. La sexualité pour la Marianoche, c'est comme la kryptonite pour Superman. Rien que d'en entendre parler, elle se sent mal. Manon, rassurez-nous, vous serez quand même en état tout à l'heure pour votre veille sanitaire.
Oui, bah toujours. Alors aujourd'hui, pas de sexe dans la VS, mais des podcasts. Et oui, on le sait, ils sont aujourd'hui très écoutés partout dans le monde. Sauf que la plupart ne sont plus simplement audio, mais ils sont aussi filmés et postés sur les réseaux pour faire parler. Est-ce que c'est une bonne idée? Réponse dans ma veille sanitaire.
Vers 16h30, nous vérifierons que oui, tous les goûts sont vraiment dans la nature à la découverte des orientations sexuelles les plus étonnantes. Ça sera enfin l'occasion de comprendre pourquoi l'ex-copine de Cyril, après lui avoir dit « je t'aime », lui disait toujours « toi, t'es vraiment un demi-romantique ». Qu'est-ce qu'un demi-romantique? Réponse dans le Zoom Zoom Test. En fin d'émission, nous aurons le plaisir de retrouver Benjamin Tranier, à qui il sera arrivé de tomber sur des thèmes plus difficiles.
Oula.
Mais d'abord, Anna Mangeau, posons frontalement la question qui tourne en boucle dans la tête de Manon. Est-ce que c'est une douleur d'être asexuel ou tout simplement pas du tout?
Alors, non, c'est pas une douleur. Moi, je suis très, très heureuse et je connais plein d'asexuels qui sont extrêmement heureux. Maintenant, ce qui rend la chose douloureuse, c'est l'accueil que les autres nous font. Ce sont les échos que l'on a de nous-mêmes et la façon qu'a le monde de nous voir et de nous montrer.
Et alors, pardon, on va développer ça sur une heure, mais c'est la première question que j'ai envie de vous poser. Ça sera la deuxième, en l'occurrence, mais je peux pas attendre. Vous devez, pour être heureuse, vous avez besoin de le dire assez vite quand vous rencontrez quelqu'un, parce que sinon, ça peut créer des quiproquos. Il faut tout de suite annoncer la couleur ou non ?
Non, pas nécessairement. Ça dépend vraiment d'une personne à l'autre. Peut-être que je suis naïve, mais moi, je crois fondamentalement au lien qui se crée entre deux personnes et que, pour beaucoup, ça ne passe pas que par l'espérance d'avoir une relation sexuelle dans les trois jours qui suivent. Donc non, pas nécessairement. Ça dépend vraiment de chacun.
Lui aussi, il a été asexuel une fois, mais c'était dans un cauchemar. Il sortait du studio 521 après avoir signé une fois de plus un édito média brillant. Et dans le couloir, son idole, Emrata, l'attendait pour le féliciter. Et là, soudain, comme s'il ne maîtrisait plus ses paroles, il s'est entendu dire
« Fais-moi l'amour. »
Non, je ne crois pas, non.
Pourquoi ?
Pas envie.
Et il se réveillait en sursaut. Bonjour Cyril Lacarrière.
Bonjour Mathieu Noël, bonjour à toutes et bonjour à tous.
Alors Cyril, vous avez enquêté, j'adore ce utiliser oui, ce verbe enquêter oui. Pour vous. Oui. Racontez-nous l'asexualité,
toujours
d'où ça
sort. Respect, donc. Voilà qui va battre en brèche l'idée qui veut que l'asexualité soit une notion toute neuve. C'est en 1897 que la sexologue allemande Emma Trost donne la première définition de cette notion. Et voilà ce qu'elle en dit. L'asexualité et l'attirance pour le même sexe ne sont pas des exceptions ou des anomalies. C'est pourquoi l'État devrait protéger leur droit à la liberté sexuelle au lieu de les discriminer. Un sujet qu'elle aborde dans son livre « Une femme, études psychologico-biographiques d'une personne asexuelle ». Alors je vous dis que Emma Trost est la première à avoir donné une définition de la sexualité, mais d'autres en avaient déjà parlé avant. 1886, encore un Allemand et encore un sexologue, Richard von Krafft-Ebing. Mais Richard n'est pas sur la même longueur d'onde qu'Emma. Pour lui, la sexualité doit être considérée comme un trouble mental. 10 ans plus tard, rebelote. Cette fois, c'est Magnus Hirschfeld qui parle d'asexualité, qui l'assimile à de l'anesthésie sexuelle. Et au fait, ce Magnus Hirschfeld, je vous le donne en mille, c'est un sexologue, et oui, il est allemand. Okay. À croire que la sexualité est une passion allemande. Bref, heureusement que plus tard, Emma Trost est venue mettre son grain de sel dans cette histoire de mec. Alors, qu'est-ce que l'asexualité ? Comment est-ce qu'on sait qu'on est asexuel ? Quel regard porte la société sur les asexuels ? Pourquoi certains en parlent comme d'une lubie ? À quel âge est-ce qu'on comprend qu'on est asexuel ? C'est ce qu'on va voir durant une heure.
1 minute 12 pour un doux assort facturé 3.
C'est
un coup de génie, un coup de génie. Vraiment. Signé Cyril Lacarrière. Merci Cyril. Anna Mangeon, on vient de l'entendre. La sexualité, ça a d'abord été considéré comme un trouble mental. Les temps, quand même, ont bien changé. Est-ce que 140 ans plus tard, vous qui êtes asexuel, vous avez le sentiment que c'est réellement derrière nous, en tout cas les clichés ou le regard porté sur la sexualité ?
Non. Évidemment que non. Je pense que ça, c'est d'ailleurs un sujet, un terrain assez fertile pour les blagues que vous faites. Mais justement, parce que c'est un sujet qui souvent fait rire, qui interroge, que les gens regardent de loin comme quelque chose qui ne les concerne pas. Donc non, c'est pas du tout derrière nous.
Il faut encore se battre. Est-ce que vous avez le sentiment, parfois, pardon de le dire comme ça, mais qu'on vous regarde justement comme une bête de foire ?
Ouais, comme une bête de foire, un extraterrestre que vous voulez, l'humain auquel on enlève la fonction de désirer et qui du coup enlève à celle des autres d'être désirable, elle est de l'ordre de l'étrange, de l'incompréhensif, alors qu'en réalité, si on regarde chacun dans nos entourages, dans l'histoire de nos familles, on a tous quelqu'un, une amie de notre mère, de quoi que ce soit, dont on a toujours murmuré « Ah, mais elle aime pas coucher ».
Pardon d'entrer dans les détails un peu techniques, mais j'ai envie d'être quand même concret pour qu'on comprenne. Est-ce que vous dites pas de désir, mais c'est pas de désir du tout, c'est juste que le désir prend d'autres formes. Est-ce que vous aimez les câlins, par exemple, sans entrer dans de la sexualité ? Est-ce que c'est le contact physique ou c'est la sexualité
Alors,
en elle-même ?
C'est bien de redéfinir les choses parce que, d'ailleurs, on a commencé l'émission en définissant la sexualité comme le fait de ne pas aimer le sexe ou de ne pas pratiquer le sexe. En réalité, c'est pas vraiment ça. Être asexuel, c'est le fait de ne pas ressentir d'attirance sexuelle envers autrui. Si les homosexuels sont attirés par le même genre qu'eux et si les hétéros par le genre opposé, en admettant qu'il n'y ait que deux genres, nous, les asexuels, on est attirés par personne. Mais ça n'empêche pas une grande partie des asexuels d'avoir de la libido, d'avoir des fantasmes, de pratiquer la masturbation. C'est simplement que on va pas être drivé on va pas ressentir cette espèce d'appétit qui nous attire vers l'autre et nous fait nous ressentir le besoin de nous presser contre.
Mais qu'est-ce qui vous drive alors, comme vous dites ?
Ah bah alors, moi, dans mon cas, rien, parce que je suis vraiment sur le truc extrême. Moi, je ressens ni désir, ni libido, ni fantasme, ni nul besoin, jamais. Mais certains peuvent avoir des fantasmes qui se créent à l'intérieur avec des personnages de leur vie ou des personnages de fiction, je ne sais pas. Simplement, quand ce fantasme vient se matérialiser, vient prendre corps, là, ça ne suscite rien du tout et ça s'arrête.
C'est déjà l'heure d'un premier break musical dans Zoom Zoom Zen. Et à l'évidence, Cyril n'a pas trouvé de chanson sur la sexualité. Ou alors, hypothèse plus probable, il n'a même pas cherché. Voici MGMT, Kids sur Inter.
Zoom Zen sur France Inter.
Peut-on aimer sans faire l'amour ? Oui, répond sans hésiter notre invitée Anna Mangeot, autrice de Asexuel, itinéraire intime et bouleversant d'une femme qui aime sans faire l'amour. Anna, comment est-ce que vous, personnellement, vous avez compris que vous n'éprouviez aucun désir sexuel ?
D'une certaine façon, je l'ai toujours su parce que j'ai commencé à avoir des partenaires très jeunes. Je lisais un petit peu trop de romans d'amour et tout, et je voulais le vivre moi-même. Mais à l'âge de la puberté, quand est venu le moment de partager un lit, je me suis bien rendu compte que quand l'autre commençait à rougir et à s'échauffer, ce n'était pas mon cas. Et qu'au contraire, ça me mettait plutôt dans un état panique que de voir ça. Et puis, les expériences se sont multipliées, souvent forcées. Et me forcer.
Vous vous forciez ?
Je me forçais ou on me forçait, ouais. Mais dans tous les cas, l'état de confusion d'entre deux du je ne suis pas censée ne pas avoir envie laissait place au forçage, à l'abus. Et puis un jour, je tombais sur la définition sur Internet et là, j'ai compris.
Vous vous forciez, c'est-à-dire vous vous forciez à coucher avec vos partenaires ?
Alors, je me forçais, enfin. Disons que quand on est jeune, quand on a 14, 15, 16 ans, on ne sait même pas vraiment ce que c'est que de se forcer parce qu'on est mélangé. Moi, j'étais perdue entre le fait que je ne savais pas ce à quoi était censé ressembler la sexualité. Donc, je me disais, ça se trouve, personne n'a vraiment envie. Et en fait, suffit de s'essayer. Et puis, une fois que je serai dedans, je vais kiffer, comme dans la piscine. Bon, évidemment, non, je n'ai pas kiffé. Mais puis après, je me disais, peut-être que je n'ai pas trouvé le bon, parce que c'est ce qu'on nous répète aussi. J'ai quitté mon premier copain pour mettre avec un deuxième. J'ai quitté le deuxième pour mettre avec un troisième. Après, je me suis dit, peut-être que c'est filles, donc je me suis mis avec des filles. Au fur et à mesure, à essayer de faire tomber des barrières qui ne voulaient absolument pas tomber, je me suis retrouvée avec mon copain actuel qui, lui, m'a laissé le temps de ne pas vouloir et de réfléchir à ce que j'étais.
Qu'est-ce qui s'est passé entre les romans d'amour, vous le disiez, hein, jeunes, et après, avec les différents compagnons, une désillusion ?
Une désillusion, je pense, plus un vrai état d'incompréhension. Un espèce de champ où ne pousse aucune racine. Et oui, il est impossible de voir où est-ce qu'on met les pieds, dans le sens où tout est tellement romancé. Et en même temps, quand on a 14 ans et qu'on lit un roman d'amour, il n'y a pas les détails de ce qui se passe dans le lit. Donc moi, je voulais en définitive être désirée, mais pas être désirée sexuellement. Je ne voulais pas qu'on ait envie de coucher. Je voulais qu'on ait envie de me prendre dans ses bras, de me câliner.
Pour qu'on reste bien dans le cœur de nos sujets aujourd'hui, qu'on digresse pas trop, on parle pas de la sexualité, c'est pas une baisse de la libido à un moment de la vie qui peut toucher n'importe qui. C'est une orientation sexuelle comme une autre. C'est comme être homosexuel, on le sait quelque part assez vite, assez jeune.
Oui, on le sait. Après, c'est ce que je vous disais, parfois vient se mélanger le fait qu'on a quand même des fantasmes, tout ça, et du fait qu'on ne parle pas assez de la sexualité, à l'apostrophe asexualité, il est quand même très difficile de savoir que l'on est. On a l'impression que l'on n'est pas comme tout le monde, qu'on est branché sur un autre canal, qu'il y a des trucs qui nous échappent, parce que même moi, très longtemps, en fait, je ne percevais pas l'attirance que les autres avaient pour moi, et donc je me mettais dans des situations parfois dangereuses à ne pas comprendre qu'en fait, fait, une personne était en train de flirter. Quand elle me disait, bah, viens, on va dans la chambre discuter tous les deux, c'était pas pour discuter. Et j'ai vraiment vécu des tonnes de situations comme ça où je m'en trouvais avec un mec qui se mettait à poil et moi qui comprenais pas.
Je pense aux auditrices, aux auditeurs qui nous écoutent et qui, sont dans la, qui ressentent la même chose que vous. Qu'est-ce que vous leur conseillez de faire ? À qui il faut en parler déjà dans un premier temps ? Est-ce qu'ils peuvent en parler aux amis, aux parents ? C'est compliqué.
Honnêtement, c'est compliqué parce que, encore une fois, on parle d'un terme que très peu connaissent, de plus en plus. Et surtout là, je trouve, ce début d'année, on a fait des progrès. En parler à quelqu'un de confiance, quelqu'un qui est un petit peu sensibilisé aux questions d'orientation sexuelle, de genre peut-être, à un psy, un psychiatre, si on en a un, à un médecin généraliste aussi, parce qu'il commence petit à petit.
Ils sont formés, les médecins généralistes, parce que parfois, entre les émissions, on se rend compte que la personne va pour décrire, elle décrit ses symptômes et le médecin veut soigner la personne. Là, il faut pas soigner. Un asexuel n'a pas besoin d'être soigné.
Alors, juste... dans 90% des cas, on va essayer de nous soigner.
Et, et essayer, mais comment on va vous donner
Moi, la première fois que j'en ai parlé à un médecin ou à un psy, il m'a dit « Ah, mais oui, mais ça, ça peut être du vaginisme, du truc, du machin. Mais je vous conseille de vous acheter des jouets de taille différente, puis petit à petit, vous allez vous débloquer. » Ce qui est, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais... Pas super.
Parce que justement, d'un point de vue physique, je suppose que c'est différent pour les hommes et pour les femmes. Parce que pour les hommes, il y a, quelque chose en fait qui ne va pas fonctionner. Enfin voilà, ils vont pas bander, si je puis permettre. Alors que les femmes, avoir peut-être ce sentiment de, d'éprouver du désir, ça se passe différemment. C'est peut-être plus compliqué à expliquer.
Ouais, c'est pour ça. C'est qu'en fait, en plus de ça, je pense que dans l'imaginaire collectif, la femme qui a un désir plus lent, qui monte crescendo, qu'il faut stimuler, elle est là. Alors qu'un homme, c'est censé bander, c'est pas censé bander. Après, maintenant, il faut rappeler aussi que, homme comme femme, notre corps peut réagir à la stimulation, même quand on n'a pas d'envie.
Vous expliquez que la sexualité, l'asexualité, est un spectre. Est-ce que ça veut dire qu'il existe plusieurs degrés d'asexualité ?
Ouais, on va plutôt parler de nuances. Tout à l'heure, vous avez parlé de demi-romantisme. Je me le suis bien noté. Donc, on peut aussi parler de demi-sexualité. En fait, disons que de la même façon que du jaune au rouge, il y a des centaines, des milliers de nuances de orange entre être asexuel et être ce qu'on appelle allosexuel, donc ressentant de l'attirance sexuelle. Il y a des milliers de nuances. On aura tendance à mettre tous ceux qui ne sont pas dans le rouge, pas dans l'allosexualité, comme étant asexuel.
Peut-on aimer sans faire l'amour ? Une question encore délicate, surtout si on la pose à Quentin, sachant que lui, précisément, ce qu'il préfère dans l'amour, c'est...
La bouillarde !
Non, c'est chanté.
Néanmoins, c'est chanté. C'est vrai que c'est vrai que je crois que dans la vie, vous préférez beaucoup chanter à faire l'amour, à mon avis. Quentin, quel regard les gens dans la rue portent sur l'asexualité, l'asexualité ?
Des regards au pluriel. On commence avec un personnage haut en couleur. Elle porte une veste en soie zébrée, un pantalon beige brillant et un chapeau noir et blanc. Je vous présente Nicole, 76 ans, retraitée.
Asexualité. C'est quelqu'un qui n'a pas de sexualité. C'est possible. C'est comme l'appétit. Il y a des gens qui ont faim, il y a des gens qui n'ont pas faim.
Vous auriez imaginé, vous, avoir une vie sans sexe ?
Jamais. Mais quelle horreur ! Mais quelle horreur ! Et j'aurais pas eu d'enfants ? J'aurais pas de petits-enfants ? Et puis le plaisir, non mais enfin écoutez... Le plaisir, quand même.
Je lui parle de votre livre, Anna Mangeau, et de votre quête de désir, qui ne vous empêche pas pour autant d'aimer. Nicole réagit.
L'amour, c'est une énergie merveilleuse. Et alors ça, si on n'a pas connu ça... je sais pas. Là, on parle d'une victime. On parle d'une victime, de quelqu'un de malade. Faire du sexe, c'est pas le bon mot.
C'est quoi ? C'est faire l'amour, alors ?
C'est faire l'amour, c'est tomber amoureux. Il en découle des émotions, une énergie extraordinaire, et c'est autre chose. Moi, je parle de l'amour. C'est beau, l'amour.
Je crois qu'elle est en couple, cette personne, qu'on reçoit.
Et alors ?
Elle est amoureuse.
Et alors, malgré tout, elle n'est pas contente ?
Non, elle est asexuelle.
Bon, enfin, moi, je pense qu'un bon psychiatre, ça peut l'aider, hein. Un très bon psychiatre.
Le diagnostic du docteur Nicole, qui vous envoie direct chez le psy parce que vous n'êtes pas dans la norme. Le sujet provoque aussi ce genre de réaction. C'est pour ça que c'était bien aussi de le partager. Lui me sourit au loin, je fais la connaissance d'Eric. La petite quarantaine travaille dans les vins et spiritueux.
Asexualité, oui. C'est quelqu'un qui n'a pas de sexualité. Voilà, après chacun fait ce qu'il veut en fait. Voilà, moi je suis assez pour laisser de la liberté aux gens. Oui. Mais c'est pas forcément une liberté si on est asexuel, je pense que c'est pas un choix, c'est un désir qu'on ressent profondément de ne pas justement avoir de relation avec qui que ce soit. Voilà, mais je trouve qu'on passe à côté de quelque chose, mais on est tous différents. Donc si on estime et on ressent le ressenti de enfin on a le ressenti de ne pas avoir de relation charnelle, sexuelle, amoureuse. Parce que c'est un peu différent entre l'amour, le sexe, le toucher, voilà, c'est un tout en fait.
Il y a des caresses qui sont pas du sexe.
Absolument, absolument.
Alors, est-ce que s'effleurer et se caresser, c'est une intimité qui ne serait pas de la sexualité? C'est intéressant d'en parler avec vous. Je lui parle des réactions parfois virulentes, de la non-compréhension, de la non-empathie aussi du reste de la société. Pour lui, ça bouge.
Oui, mais justement, je trouve que ces gens qui auraient pu être exclus de la société auparavant, aujourd'hui, il y a des mouvements... ce mouvement-là, justement, il est repris dans sur les réseaux sociaux. Donc, voilà.
On en parle. Ils ne sont pas invisibles.
Non, mais j'allais dire, tout ça, c'est comme la religion, ça doit rester personnel. Je pense que... pourquoi en parler de tout ça? On est dans l'ordre de l'intime aussi. Donc la religion, la sexualité, on fait ce qu'on veut, je pense, vraiment.
Ma dernière rencontre se balade dans la ville avec son sac à dos, je l'arrête, bonjour.
Bonjour, je m'appelle Éléonore, j'ai 17 ans et je suis au lycée. Asexualité. Je sais pas si c'est... Je pense que le mot... Et de notre époque, mais le concept a toujours été existant. Je pense qu'il y a toujours eu des gens qui n'ont pas été intéressés. Par exemple, les prêtres, ils sont toujours là, et je pense qu'eux sont asexués.
Alors, asexué et asexuel, c'est pas pareil.
Ah bon, ouais.
Asexué, c'est ne pas avoir d'organes génitaux.
Ouais.
Et asexuel, c'est quelqu'un qui n'a pas envie.
Oui.
Et c'est important de le rappeler, car la confusion est effectivement revenue dans la rue. Je lui demande si sa génération ne serait pas un peu plus ouverte, plus OK avec la sexualité de chacun.
Dans notre génération, je pense que c'est pas très très bien vu justement. Je trouve qu'on est plutôt dans une génération très sexualisée. On a justement, faut avoir fait ta première fois et tout. Et justement, on te regarde un peu mal si tu l'as pas fait.
On a une sorte de pression sociale à faire du sexe.
Oui, exactement. Et de plus en plus jeune justement. Et on a des histoires sur des collégiennes aussi qui, dès 12, 13, 14, commencent à avoir des relations sexuelles. Et justement, je trouve que c'est intéressant de rencontrer ce genre de personnes qui justement... n'ont pas de désir sexuel. Pour voir aussi les raisons, est-ce que c'est des raisons plutôt physiques ou mentales ou juste qui ne trouvent pas d'intérêt. J'aimerais bien comprendre.
Ne pas comprendre au point de l'associer à une maladie, vouloir le taire, car la sexualité, ça doit rester dans la sphère du privé, ou au contraire, s'y intéresser au sujet de près avec votre livre, par exemple, Anna Mangeot, car cela nous est inconnu. Finalement, dans la sexualité, chacun fait ce qui lui plaît. Et le mieux, c'est d'en parler.
Dès qu'il peut sortir un extrait de chanson,
il le fait.
Il y va. Anna Mangeot, je rappelle que vous avez signé Asexuel aux éditions Larousse. Trois générations différentes au micro de Quentin. La plus jeune est peut-être finalement la plus ouverte sur la sexualité. Vous, c'est ce que vous constatez aussi dans votre quotidien. Il y a un problème générationnel aussi avec cette question.
Franchement, moi je suis amenée à en parler avec des gens de tout âge et ça va... Non, c'est un peu pareil partout. Il y en a qui comprennent pas et qui... Nicole m'a beaucoup fait rire, la première, qui ont des réactions, notamment ma mamie, peut-être au début, parce que c'est la génération des années 70, tout ça. Donc, elles ont du mal à comprendre. Et puis maintenant qu'elle m'a écoutée, qu'elle a lu mon livre, c'est la première à me soutenir et qui comprend vraiment tout ça.
Oui, mais ce qui est fatigant, c'est que vous avez un devoir d'explication supérieur même, je pense, aux homosexuels aujourd'hui. Parce que la sexualité intrigue, en fait, quelque part.
En fait, je pense que on est justement un peu comme les homosexuels il y a 50 ans, à quelque chose, on sort tout juste de notre trou et du silence, et du coup les gens sont très curieux, on est vraiment sur ce truc très primaire de la maladie, de la déficience, que c'est triste, et de la famille aussi évidemment. Pardon, je regarde mes notes tout à l'heure, et du coup on en vient d'ailleurs au deuxième interviewé qui disait ça doit rester personnel, mais justement c'est pour toutes ces raisons que non, ça ne doit pas dans l'idée...
Il compare à la religion.
Oui, comparé à la religion. Alors, oui, chacun est libre de ne pas en parler, évidemment. Mais là, vous preniez mon exemple. Moi, j'ai décidé d'en parler, de prendre la parole, parce qu'il est important que quelqu'un le fasse. À aucun moment, j'ai fait ça pour la lumière ou quoi que ce soit. Même ce livre, je n'en ai pas parlé une seule fois sans être vraiment transi d'angoisse avant sa publication. Mais il fallait que quelqu'un pose ses mots et vienne en parler en public.
Et justement, j'ai l'impression quand même qu'il y en a de plus en plus qui le font. Je pense par exemple aux séries sur Netflix, à Sex Education et au reboot d'Art Laker à Vif, il y a deux personnages asexuels, ça a fait énormément parler, du moins sur les réseaux. C'est un pas en avant pour vous? C'est bien que des séries d'ados en plus le fassent?
Alors, vous avez commencé votre phrase en disant les gens commencent à en parler, les gens oui, mais pas les asexuels eux-mêmes. Ces deux personnages, j'étais évidemment ravie en voyant d'abord qu'il y en avait. J'étais vraiment contente, et puis en découvrant petit à petit la manière dont les personnages étaient écrits, je suis un peu tombée de haut, parce que toujours, on est traité sous un jour misérabiliste. Il nous manque quelque chose. On est les personnages un peu ennuyeux. Alors, dans par exemple Sex Education, Education, c'est la bully qui martyrise tout le monde parce qu'en fait, elle est triste de ne pas pouvoir coucher. Et dans, c'est pas Hart les cœurs à vif, mais c'est une autre série Netflix. En fait, c'est le seul dont on ne développe pas trop le personnage. Il est comme ça, c'est le petit qui est derrière, qui suit la bande, qui rigole pas trop aux blagues. Et on manque justement d'une flamboyance, de montrer, moi, sur les réseaux, je me poste tout sourire, je suis avec mon mec, je suis habillée un peu sexy, j'arrive, je suis maquillée, j'ai les cheveux longs. C'est cette espèce de personnage, en fait, oui, qui a du charisme, oui, qui est sympa, oui, qui est joli et qui est, oui, asexuel.
Quentin. Comment il l'a pris, votre partenaire, votre compagnon?
Écoutez, au début, il a eu peur. Enfin, je pense parce que le fait est que quand on pose le mot asexuel, ça signifie qu'on n'est plus réparable. Ça signifie que c'est inné, que c'est vraiment en nous, justement. Tant qu'on a un doute, ça signifie que peut-être avec des thérapies, avec de la patience, avec de la confiance, on pourra avoir une sexualité dite normale, quoi que ça puisse vouloir dire. Et le jour où je lui ai parlé de la sexualité, ça signifiait que j'étais comme ça, qu'on ne pouvait plus rien y faire. Et en définitive, avec le temps, on a découvert que ça ouvrait au contraire un terrain de liberté puisque je n'avais plus à me forcer, j'étais enfin vraiment moi-même.
On va en reparler dans la dernière partie de l'émission. On continue de zoomer ensemble à Anna Mangeau sur l'asexualité, asexualité. On verra notamment qu'asexualité n'est pas incompatible avec vie de couple, vous le prouvez, et même sans que les deux partenaires soient forcément asexuels. À la grimace de Manon Mariani, j'imagine que ça nécessitera pas mal d'explications que vous nous livrerez juste après le Zoom Zoom Test à la découverte cet après-midi des orientations sexuelles les plus rares. Mais d'abord, voici Yoa, Matcha Queen sur France Inter.
Elle boit du matcha avec ses copines. Elle pense aux garçons qui lui font du mal. Mélange le yoga et les aspirines. Elle vit sa vie comme si c'était un drame. Elle sait plus pourquoi le soir elle déprime. Avant de plonger dans un rêve subliminal. Mais du spa sur son corps. Avec ses copines, oublie les garçons qui lui font du mal. Un peu à l'étroit dans sa paire de jeans. Passer des heures à éviter les drames. Elle met des tonnes de crème sur son visage. Oh mon Dieu, comme c'est criminel de prendre de l'âge. Pas d'amour enfoui dans son paysage, mais seulement quelques traumatismes.
France Inter, Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
Il n'y a pas encore de nom pour désigner cette déviance qui consiste à pratiquer le Scrabble dans des parkings sombres, à même le capot d'une voiture. Mais pour toutes les autres orientations sexuelles, même les plus surprenantes, il y a un mot. Saurez-vous les découvrir? Jouons au Zoom Zoom Test. J'espère pour vous, Manon Quentin, qu'hier soir, avant de vous coucher, vous avez appliqué ce conseil que je vous donnais en début de saison, qui est, pour bien performer dans le quiz, toujours relire le Larousse dans son intégralité le soir. Attention,
tous les soirs.
Évidemment, c'est ce que vous faites. On commence par une orientation sexuelle facile à deviner, car assez commune finalement. Tenez, je me livre un peu au micro d'Inter. Cet après-midi, c'est aussi la mienne. Je me reconnais dans cette catégorie. Manon Quentin, d'après vous, qu'est-ce qu'un demi-sexuel ? Quelqu'un qui ne peut faire l'amour qu'après avoir bu un demi ?
C'est drôle.
Quelqu'un qui ne peut faire l'amour qu'avec une personne avec qui il a une connexion émotionnelle forte ? Ou quelqu'un qui adore faire l'amour mais qui se retire à la moitié de l'acte ?
B.
C.
Mais
le mec n'écoute même pas notre émission, mais vous vous rendez compte, Anna ? Vous avez donné la réponse tout à l'heure.
Vous avez rebondi
sur ce mot demi-sexuel. Donc la réponse a été donnée. Bonne réponse effectivement de Manon. Oui, chez les Noëls, on est des demi-sexuels. Loin du tableau apocalyptique que vous aimez dresser de ma sexualité, puisque je rappelle que selon vous, je ne fais l'amour qu'une fois par trimestre, rideau tiré, dans le noir, en missionnaire, après avoir récité « Je vous salue Marie ». Non,
oh là là.
Simplement, j'ai besoin d'avoir établi une connexion émotionnelle profonde avec ma partenaire. Sinon, je n'ai pas de désir. Excusez-moi d'être romantique. Même si c'est vrai, tout le monde ne peut pas en dire autant. Top, je suis une orientation sexuelle assez niche, mais tout de même suffisamment répandue pour avoir un nom. Pour vous, j'ai même un exemple assez parlant. Cyril Lacarrière, englué dans sa relation asymétrique avec Emrata, la mannequin Émilie Ratajkowski. L'un suit l'autre sur Instagram, mais ce n'est pas réciproque. Et pourtant, Cyril prend du plaisir dans cette relation unilatérale. Il like scrupuleusement chaque nouveau post de son ami virtuel, s'enfonçant chaque jour un peu plus dans ce qu'on appelle une relation parasociale, voire Zoom Zoom Zen, épisode 341. D'après vous, Cyril est un voyeur ?
Oui.
Un solilo romantique ou un lit romantique ?
C.
A et B.
Alors vous avez choisi visiblement, Quentin, aujourd'hui de répondre le full n'importe quoi, de A à Z, le A et B, dans les deux mauvaises réponses.
C'est...
Bonne réponse de Manon Mariani, effectivement.
Depuis quand il est pas voyeur ?
De par sa fascination pour Emrata, Cyril est un lit romantique. Ces personnes qui expérimentent des sentiments romantiques sans désir de réciprocité. Leur expérience amoureuse est unilatérale et complexe, caractérisée par un désir de romance non partagé. Attention, plus difficile selon vous, qu'est-ce qu'un grès sexuel ? Une personne qui ne peut faire l'humour, qui ne peut faire l'humour aussi. Ouais, il peut faire l'humour. Une personne qui ne peut faire l'amour que comme dans 50 nuances de Grey. On salue Antoine Bueno. Une personne qui se situe à équidistance de l'asexualité et de la sexualité. De la sexualité, donc L'apostrophe asexualité.
Oui, oui.
Cette question n'est pas faite pour la radio.
Non.
Ou une personne qui ne peut faire l'amour qu'avec des gens ayant les cheveux gris.
B.
Il a entendu Antoine Bueno, il s'est jeté sur la réponse. Non, bonne réponse de Manon Mariani. J'aurais aimé que ça soit la réponse C.
Ouais, la réponse C,
mais non, un grès sexuel, G-R-A-Y, est quelqu'un qui éprouve de rares attractions sexuelles, qui a une libido faible, mais pas inexistante. Anna, vous connaissez ce terme de grès sexuel ?
Oui, absolument. Bah, ça illustre assez bien ce que je vous disais tout à l'heure avec les nuances. C'est qu'en fait, à partir du moment où on ne se considère pas comme étant dans la norme, ce qui reste très subjectif, on serait asexuel. Mmh. Mais du coup, si vous vous considérez comme étant demi-sexuel, bienvenue parmi nous, vous êtes donc asexuel.
C'est la nuance de grès.
Ah oui, ça y est, je suis asexuel carrément, j'ai franchi un pas. Alors, quittons les grès sexuels pour découvrir un autre type d'orientation. Manon, Quentin, je vous présente les scoliosexuels.
Oula.
De plus en plus mystérieux, me direz-vous. Alors, c'est vrai que c'est peut-être un terme qu'on n'entend pas tous les jours. Peut-être que l'étymologie peut vous aider à comprendre de quoi il s'agit. Trois possibilités. D'après vous, les scoliosexuels sont des personnes qui sont attirées par les gens souffrant de scoliose. On embrasse Cyril Lacarrière. Qui ne peuvent atteindre l'orgasme qu'en étant dos à leur partenaire. On embrasse encore Cyril Lacarrière du coup. Ou qui sont attirés par des personnes transidentitaires plutôt que par des personnes cisgenres.
C'est...
Là, c'est allé très vite et je crois que Quentin a eu le point. Il a enfin mis un point. Effectivement, les scoliosexuels sont attirés par ceux qui ne se conforment pas aux normes binaires de genre. Rien à voir avec un quelconque fétichisme du dos. Enfin, vous le savez, dans quelques jours maintenant, le compte à rebours a commencé. On est tous très impatients. Sortira le nouveau roman de Marlène Schiappa. Nos collègues du Masque et la Plume en ont l'eau à la bouche. Mais d'après vous, Manon, Quentin, quel est le point commun de Marlène Schiappa et Sophie Marceau ? Elles sont sapiosexuelles. Leur attirance est basée sur l'intelligence de l'autre. Elles sont égosexuelles, elles ne peuvent ressentir de désir que faisant l'amour devant un miroir. Ou elles sont pansexuelles, le sexe de leur partenaire n'a pas d'importance pour elles.
Ah,
elles sont pas pans.
Elles sont sapio.
Elles sont pas pans, comme vous dites, Quentin, c'est encore une bonne réponse.
Oui.
De l'exceptionnel Manon Mariani.
Miley Cyrus l'est aussi.
Je l'avais pas,
oui,
ça.
Voilà.
Moi, mes références.
Petite anecdote.
Sophie Marceau et Marlène Schiappa, elles ont expliqué que c'est l'intelligence qui les excitait avant tout, exactement comme Cyril avec Emrata. Tout ce beau monde est donc sapiosexuel. Victoire très très large,
ah oui, large
de Manon Mariani aujourd'hui.
Bon, merci.
Sans appel.
Cela dit, terrain conquis.
Anna Mangeau est toujours avec nous pour zoomer sur la sexualité, L' asexualité. Je rappelle votre livre Asexuel, itinéraire intime et bouleversant d'une femme qui aime sans faire l'amour, aux éditions Larousse. Anna, l'absence de sexualité peut être vue comme une étrangeté, une anomalie, on en a déjà suffisamment parlé dans cette émission, mais vous, vous affirmez, et c'est important d'entendre ce discours-là, qu'on peut être parfaitement heureuse en étant asexuelle.
Ouais, mais bien sûr, on peut être heureuse et puis en bonne santé, parce que moi j'ai fait bilan hormonal, je vois un psychiatre depuis un sacré paquet d'années pour des raisons de déprime, mais qui n'étaient pas forcément liées à ça. Bilan hormonal, tout est revenu ok, je n'ai ni carence ni problème d'hormones et mon psychiatre est super content de moi.
Et on le disait tout à l'heure, parce que Quentin était très excité d'aborder le sujet, vous êtes vous-même en couple avec un garçon qui lui n'est pas asexuel.
Absolument, et nous allons bientôt fêter nos 6 ans, nous sommes fiancés, nous vivons ensemble depuis 5 ans et demi et nous avons un petit chat nommé Oslo.
C'est magnifique. Et comment vous expliquez, à quel moment de votre relation, vous avez commencé à lui expliquer que ça, c'était pas votre cas, mais qu'il allait pas falloir aller sur ce terrain-là, sinon ça allait pas marcher?
Et je crois bien que c'était au tout début, quand on a bu un verre ensemble, on était en terrasse à Sentier, rue Montorgueil. Il s'est penché vers moi très romantiquement, et m'a dit qu'il souhaitait m'embrasser. J'ai éclaté de rire, je lui ai dit « tu n'es pas dans la merde ». Parce que à cause de ces années justement à me forcer, j'étais persuadée d'être traumatisée, et que c'était à cause de ça que je ne ressentais pas de désir, mais aussi parce que concrètement, ça avait rendu les échanges hyper compliqué puisque j'avais accumulé sur mon asexualité des traumatismes liés à ces abus. Et ma première réaction, ça a été de rigoler et je crois que ça lui a plu puisqu'on est quand même rentrés ensemble ce soir-là. Il ne s'est rien passé entre nous, il m'a juste serré dans ses bras et 3 semaines après, nous étions en couple.
Quentin,
est-ce qu'on peut en rire? Justement, est-ce qu'on doit en rire? Est-ce qu'il faut en rire d'être asexuel?
Alors, je pense
que... Depuis le début de l'émission, on fait des blagues.
Oui, oui, mais vous avez vu ma tête au début de l'émission. C'est que j'ai pas l'habitude non plus qu'on en rit. Et moi, je sais jamais trop comment le prendre parce que la réalité que je vis au quotidien, ça a été des années à me sentir extrêmement mal. Un livre dans lequel je raconte à quel point j'ai frôlé le suicide dû à ce mal-être et à ce sentiment d'être vraiment en marge et aux abus que mon ignorance a entraîné. Et puis après, il y a tous les messages que je reçois de gens qui se sentent aujourd'hui encore très mal, de 14 à parfois 60, 70 ans. Je reçois des lettres, des mails, tout ça. Donc oui, on peut en rire quand on est avec quelqu'un que l'on connaît et en qui on a confiance, mais il ne faut pas oublier que ce mot cache énormément de mal-être.
De souffrance, oui, effectivement. Un mot, parce que vous êtes très cash hein, dans le livre, vous expliquez tout. Vous avez une sexualité, elle est juste très, très épisodique en fait. Ça se manifeste comment? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, vous dites, tiens là, j'ai envie? Est-ce que d'ailleurs, même dans ces moments-là, vous avez envie?
En fait, c'est vraiment très ambigu et c'est ce que je raconte aussi dans mon livre, c'est que c'est tellement compliqué d'expliquer la finesse des sentiments, l'ambiguïté des relations, parce qu'un jour c'est différent de la veille. Et oui, parfois je peux avoir envie de faire l'amour sans qu'il ne s'agisse de désir, mais simplement parce qu'on a passé une journée où on a été particulièrement proches et j'ai envie de m'endormir, de vivre ce moment où je vais vraiment être contre lui, où on va mélanger nos odeurs. Mais après, au-delà vraiment d'un rapport pénétrant, pour moi, on a une sexualité parce qu'il y a un érotisme entre nous qui est que on s'endort tous les soirs en se serrant l'un contre l'autre pendant 30 minutes. On adore respirer nos odeurs en se collant l'un contre l'autre, encore une fois, en se serrant, en se grattant les cheveux, je sais pas. On s'endort pied contre pied. Il y a vraiment un truc où on est hyper tactile l'un avec l'autre. Et pour moi, tout ça, ça fait une forme de sexualité.
Asexualité, c'est le A dans LGBTQIA+. Est-ce que c'est moins invisibilisé dans le milieu LGBTQIA+, d'être asexuel?
Pas forcément. Honnêtement, je pense que les personnes queer ont encore un peu de taf à faire pour nous laisser de la place et de la lumière. Je n'ai de cesse de le répéter. Après, c'est aussi compliqué parce que, étant donné l'accueil qui est fait aux personnes asexuelles dans les sphères queer comme non queer, les autres sphères, les mésadelphes, les gens comme moi, n'ont pas forcément envie de prendre la parole ou la lumière. Donc, pour l'instant, on est vraiment très peu, ce qui fait qu'on n'a pas forcément le temps de tout faire. Et du coup, il y a cette espèce de mélange là entre la lumière qu'on ne veut pas nous donner et la lumière que beaucoup ne veulent pas prendre par peur.
Vous parlez aussi de pression à la sexualité dans nos sociétés. Ouais. Je ne sais pas, est-ce que ça marche une comparaison avec quand vous avez décidé d'arrêter l'alcool? Tout le monde vous saoule parce qu'on dit « Oh, tu ne vas pas prendre d'alcool, t'es chiant ». C'est vraiment un truc qu'on entend qui n'a pas de sens, qui est aberrant. Est-ce que là, c'est pas, vous ne vous retrouvez pas dans cette position où on vous regarde, on dit « Comment ça? Tu n'as pas envie de sexe ?»
En plus, j'ai arrêté aussi de boire de l'alcool cette année. Donc du coup, j'ai vraiment fait le parallèle. Ça m'a bien fait rire. Ouais. Alors, il y a ça, mais il y a en plus de se dire... à... Je pense que c'est plus quand on est végétarien. Mmh. Et genre qu'on se dit, mais t'as pensé à ton mec, peut-être que lui, il a envie de bouffer de la viande. Et qu'en fait, vraiment, on me le reproche hyper frontalement, hyper violemment. On me dit, mais c'est horrible pour ton mec. Enfin, tu peux pas lui faire ça. C'est égoïste. Et voilà, ouais.
Et qu'est-ce qu'il en dit justement, votre mec il est souvent confronté à cette question. Est-ce que ses potes, à lui, lui posent la question?
Quand j'ai commencé à faire des interventions et il a reçu des appels de ses potes, j'allais glisser une petite insulte entre le C et potes, pour lui demander d'un ton un petit peu rieur, ah, mais ça va Anthony, tout se passe bien dans ta relation, t'es sûr que machin et tout. Un peu sa famille aussi qui était inquiète, mais plus pour son bonheur et son épanouissement. Honnêtement, mon mec, il en a vraiment rien à foutre. C'est un mec qui est très bien dans sa peau. Il est très heureux avec moi. Je crois même qu'il est très fier d'être avec moi. Donc, bon, ça ne le touche pas.
Quel conseil vous auriez aimé recevoir? On a dit que c'était dur, hein, la sexualité, de le découvrir et de l'imposer aux autres. Quel conseil vous auriez aimé recevoir quand vous étiez plus jeune, quand vous avez compris que vous étiez asexuel?
Des conseils, je sais pas, mais ce que j'aurais aimé entendre, c'est j'aurais dû être certaine de que je n'étais pas seule tous ces soirs où je pleurais recroquevillée sur moi-même en me disant que j'étais cassée, j'étais atteinte d'une maladie incurable et inconnue, qu'en fait c'était pas le cas, que j'avais tout le droit d'être heureuse et que je serais heureuse. Qu'il fallait être patiente parce que les choses évoluent et elles vont continuer d'évoluer, que la communauté asexuelle et les gens comme nous, la communauté asexuelle est peuplée de gens comme nous qui sont magnifiques, qui sont heureux d'être ce qu'ils sont et que ça donne beaucoup d'espoir et qu'il faut surtout jamais, même au nom de l'amour, même au nom de ce que vous voulez, jamais se forcer.
Vous écoutez France Inter, il est 16h46. Dans quelques instants, mettre en présence un sujet sur la sexualité et Benjamin Tranier, c'est à peu près comme mettre en présence un tube de Mentos et une bouteille de coca, ça risque d'éclabousser fort. On s'en excuse par avance, mais d'abord Manon, il est temps de quitter l'univers dystopique pour vous de la sexualité pour évoquer ce qui se passe sur les réseaux sociaux et votre veille sanitaire démarre en musique cette semaine.
Actuel.
Enfin, une bonne musique de ma génération.
La vidéo a tué la radio, chantait les Buggles en 1979.
Oui,
eh bien,
la chanson de Cyril, alors.
Figurez-vous que je m'apprête à faire un constat similaire 45 ans après, un peu remixé toutefois. La vidéo a tué les podcasts. Et oui, on le sait aujourd'hui, écouter un podcast n'est plus une tendance qui s'adresse seulement à une niche de Parisiens. Mais c'est devenu une habitude partagée par des millions de personnes dans le monde. Selon les chiffres, en 3 ans, le nombre d'auditeurs mondiaux de podcasts a augmenté de 70%. Et les plus gros consommateurs sont les Américains et nous, les Européens. Son modèle a tout de même donc beaucoup évolué depuis quelques années, notamment sa manière de le consommer. Ce n'est plus simplement de l'audio, le podcast est aussi filmé. C'est Spotify qui a totalement démocratisé le podcast filmé. La plateforme est devenue l'une des principales productrices de ce format et les plus populaires ont tous leur version vidéo. Que ce soit The Joe Rogan Experience, une émission très controversée, souvent attaquée à cause de ses invités complotistes et extrémistes. Aux US, c'est un carton et il est donc aussi proposé en vidéo directement sur Spotify. Pareil pour Caller Daddy, un podcast qui parle de sexe et d'intimité avec des célébrités. Et en France, on peut aussi citer celui de Léna Situation, Canapé 6 places, qui est fait sur ce même modèle. Un choix évidemment calculé, car selon la directrice des podcasts France de Spotify, les auditeurs sont 2,5 fois plus nombreux à tester un nouveau podcast s'il a une vidéo qui l'accompagne. C'est ce qu'elle a dit à Télérama en février dernier.
Mais maintenant, ça rend quoi en vidéo un podcast?
En soi, c'est pas super intéressant. En général, il y a juste l'interviewer en face à face sur des fauteuils ou autour d'un studio, un casque sur les oreilles et micro devant la bouche comme à la radio, comme nous en fait. Ce ne sont pas des vidéos qui demandent une super production, elles restent assez simples, assez basiques. Après, elles ont tout de même chacune leur esthétisme pour qu'elles soient reconnaissables. Léna Mafou fait par exemple sur un grand canapé marron à la Friends avec ses invités. Son décor est fait sur mesure pour elle, histoire qu'on sache directement avec qui on est. C'est sa marque de fabrique visuelle.
Et c'est quoi le but alors? Moi je comprends pas.
Et rendre ces vidéos virales, car à notre époque c'est devenu évidemment difficile de vendre un produit audio sur des plateformes centrées essentiellement sur l'image. Que ce soit Instagram, TikTok ou YouTube, tout tourne autour de la vidéo aujourd'hui. C'est pour ça que les podcasts sont maintenant filmés. Forcément, on a plus envie d'aller écouter le podcast Caller Daddy après avoir vu un extrait vidéo avec Megan Fox sur TikTok que juste un extrait sonore. Surtout qu'en général, ce sont des vidéos courtes et bien montées qui sont partagées sur les réseaux dans le but de nous mettre l'eau à la bouche Pour beaucoup, c'est donc devenu un élément indispensable pour communiquer. Mais la vidéo n'est pas non plus accessible à tout le monde, hein, évidemment, car pour produire un podcast filmé, il faut tout de même en avoir les moyens. Ce n'est pas la même configuration. Faire un podcast simplement audio, c'est beaucoup plus simple, hein, d'un point de vue technique. Il suffit d'un micro et d'un ordinateur. Alors que si on rajoute de la vidéo, ça demande tout de suite beaucoup plus d'organisation.
Il faut avoir de l'argent, tout simplement. Madame.
Exactement, hein, et c'est pour ça que quand on est produit par Spotify, c'est facile d'avoir un versant vidéo. Mais quand on est un petit producteur indépendant, beaucoup moins. Et puis l'image peut aussi casser le côté confession du podcast, car on ne parle pas de la même façon quand on est filmé, c'est logique. On fait forcément plus attention à sa manière de parler et à son apparence. C'est pour ça que certains trouvent des alternatives pour illustrer leur podcast en vidéo, mais sans se filmer. C'est le cas de Hugo Décrypte avec son podcast Les Actus du Jour qui cartonne. Il en fait aussi une version qu'il propose sur YouTube, mais avec des images d'illustration, pas avec sa tête. Pareil pour Arte Radio qui poste sur Instagram des extraits sonores de ses podcasts, mais illustrés avec de jolis dessins. C'est une autre façon d'attirer les utilisateurs. Ce qui est sûr, c'est que le podcast est donc en pleine mutation. Chacun peut choisir sa façon préférée de le consommer, valoriser l'imaginaire en l'écoutant ou vouloir être plus dans le concret en le regardant. En tout cas, les nôtres chez Zoom Zoom Zen n'ont pas de version vidéo, mais ça ne les empêche pas de cartonner.
Ah oui, 1,8 million de réécoutes le mois dernier, pour être précis. Maintenant, ne soyons pas modestes, ça n'a jamais aidé personne dans nos métiers. Ou le faire savoir vaut au moins autant que le faire tout court. Bref, Benjamin Tranier, qui lui aussi draine du monde en podcast, arrive avec un personnage de coach en séduction que je vous annonce assez gratiné. Zoom Zoom Zen revient juste après Jalen Ngonda, Illusions sur Inter.
Zoom Zoom Zen sur France Inter.
L'occasion était hélas trop belle pour, alors qu'on zoome cet après-midi sur le phénomène de l'asexualité, c'est le grand retour de Fab Sex Alpha, coach en séduction, qui a tout à nous apprendre du désir, car pour lui, eh bien, l'asexualité n'existe tout simplement pas. Hein.
Bonjour, mâle alpha en devenir. Avant de parler d'asexualité, oublie pas de t'abonner et de souscrire à mes formations Fab Pro Sexeur. Mardi, je serai en Alsace pour montrer comment établir un eye contact avec la femme. Indice, il faut faire comme ça. Voilà. Cette technique m'a permis de cunilinguer les fesses des plus belles tentatrices de Mulhouse et de sa périphérie. J'embrasse Gisèle de Sausheim et Marie-Paul de Cernay. Comment me direz-vous? Eh bien, avec la langue, bien sûr. Hop. Mais être asexué, ça n'existe pas. On a toujours tous envie de sexer. Moi, j'en ai envie tout le temps. Au rayon frais, chez le dermato, à l'éléphant bleu et même au Wawa quand je fais la grosse. La sexualité est un mensonge inventé par les magazines féminins pour qu'on se parle avec la femme. Je vais vous apprendre à dire non, excuse-moi, je n'ai pas envie que tu me parles de tes problèmes de femme. Tu veux pas plutôt me faire une pougnette hispanique sur mon nouveau poltronnet sofa? Il est en Ubuk. Toujours pas convaincu? Ah non.
Non, pas trop.
Toc, 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 toc. Qui est là? C'est moi, Fab Sex Alpha. Mais pourquoi t'ouvrirais-je? Mais ouvre-moi, je sais que tu en as assez de ce sopalin triple épaisseur et de cette crème Mixa bébé pour peau sèche au pH neutre à 2,90€ chez Nose. Alors écoute mes conseils et abonne-toi à mes cours. Tu en as assez de ne plus être désirable aux yeux de la femme qui prétend asexuer? Je vais te donner tous les conseils pour te rendre de nouveau désirable et que les autres, elles aient de nouveau envie que tu fasses des va-et-vient dans elles. Déjà, avant chaque rendez-vous, aspergez-vous de mon eau de Cologne, Fab Sex Alfragrance, muesli fruits secs, dispo sur ma boutique. Les femmes, elles adorent le muesli. Ça et les shoppings dans les centres commerciaux. Ensuite, emmène la femme dans un restaurant de fruits de mer et commande des huîtres et joue avec tes doigts et ta langue avec le mollusque, tout en la regardant bien dans les yeux pour envoyer des signaux clairs. Si, c'est très important de le faire en regardant dans les yeux, sinon elle pourrait te prendre pour un tordu et ça, ce n'est pas le but, non, non. Une fois à la maison, propose-lui un jeu de société, elles en raffolent. Autant que les films qui font pleurer, ça je sais. Propose-lui un Time's Up et dis-lui que tu adorerais tomber sur la carte Manuel Ferrara pendant le mime. Elle comprendra ainsi, tout en subtilité, que tu aimes le sexe à gogo. Voilà, tu as maintenant toutes les cartes en main pour contrer la sexualité. Si ça ne fonctionne pas, je t'offre toute ma collection hentai de poche, c'est-à-dire, c'est te dire comme j'y croyais. La semaine prochaine, je vous montrerai la vidéo de la technique des sandalettes et réussir à dire « on passe une belle soirée, non ?» Ça te dit « on rentre à pied dans une heure, quand on sera chez moi, tu me laisseras sentir l'écart entre tes doigts de pied ?» Allez, sexuellement vôtre, c'était Fab Sex Alpha.
Difficile à croire que vous auriez trouvé une chute encore pire que le reste, mais vous l'avez fait. Et c'est ça aussi la touche Benjamin Tranier qui est beaucoup plus, beaucoup plus gentil dans la vie. La fragrance musli, j'y avais pas pensé. On vous retrouve la semaine prochaine dans Zoom Zoom Zen. Benjamin, je rappelle que vous êtes en tournée pour votre dernier spectacle. Félicitations et tout, à Paris en janvier 2025. Et vous m'avez mis cette petite information, on sent que vous êtes fier, en tournée worldwide.
Exactement.
Parce que vous serez en Belgique. Toutes les informations sur benjamintranier.fr. Merci encore Anna Mangeau de nous avoir permis, contrairement à Tranier, de mieux comprendre ce que signifiait être asexuel aujourd'hui. Je rappelle votre livre Asexuel, itinéraire intime et bouleversant d'une femme qui aime sans faire l'amour, disponible aux éditions Larousse. Et donc on le rappelle à tous les aigris, tous ceux qui ne comprennent pas encore ce phénomène, vous êtes parfaitement heureuse en étant asexuelle et c'est ce que devraient être tous les gens qui sont asexuels finalement.
Absolument. Arrêtons. Merci de m'avoir accueilli.
Merci à vous. Arrêtons d'emmerder les asexuels. Merci à tous les amis, Quentin, Cyril, Manon, ça y est, vous pouvez enlever vos bouchons d'oreilles. À la technique, c'était Adèle Caglar. À la réalisation, Ghislain Fontana. Je remercie également toute l'équipe en régie, Amel Caldi, Fanny Léonore Crouzet et Sybille Vulou. Demain, on zoomera sur un phénomène qui prend de l'ampleur à mesure que les plateformes nous proposent toujours plus de contenu, le ciné-tourisme, quand on décide de partir au bout du monde pour visiter les lieux de tournage de nos séries préférées. Quentin a de la chance, plusieurs épisodes du Commissaire Moulin ont été tournés dans sa rue. Ça lui fait des vacances pas trop chères.